journal de Florence Paracuelos. Bonjour Florence.
Bonjour Ali, bonjour à tous. À la une ce matin, on s'est posé sur la face cachée de la Lune. Les Chinois, en l'occurrence, qui viennent d'y faire allunir un engin. C'est une première et une nouvelle étape dans la conquête spatiale. Explication dans un instant. Un gilet jaune en garde à vue ce matin. Éric Drouet, arrêté hier soir à Paris, où il voulait mener une action tout près de l'Elysée. Après des semaines de mobilisation et de dérapage, le gouvernement manifestement a décidé de ne plus rien laisser passer. On verra ce qu'en dit le ministre que vous recevez à 8h20 à Lille, le ministre de l'économie.
Bruno Le Maire qui publie un livre politique et très personnel dédié à son ami Paul, mort des suites d'un cancer. Le titre Paul, une amitié, c'est chez Gallimard. L'actualité évidemment avec BLM. Le standard est ouvert, posez-lui vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
À la une également un haut diplomate nord-coréen qui fait défection en Europe. Apple qui perd 58 milliards de dollars en quelques minutes à la bourse hier soir. Les pistes de ski en France dures comme du béton, attention aux accidents. Et tout un mois de janvier sans alcool, défi venu d'Angleterre. Les Français vont-ils adhérer ?
France Inter.
Elle fascine les hommes depuis la nuit des temps, la lune et son visage toujours le même, tourné vers nous. Mais qui a-t-il derrière ? À quoi ressemble la face cachée de la lune ? Cette nuit, la Chine y a mis un pied et c'est un nouveau pas dans la conquête spatiale. Le tout premier alunissage sur cette face inexplorée. Bonjour Sophie Bécherel.
Bonjour.
Alors il n'y a pas de Neil Armstrong chinois, pas d'homme de l'autre côté de la lune ce matin, mais un module d'exploration nommé Chang'e 4. Ce qu'il faut dire, Sophie, d'abord, c'est que c'est un exploit.
Oui, c'est une première mondiale. Ni les Américains, ni les Russes n'avaient jamais posé un engin sur la face cachée. Une face plus accidentée que celle que nous voyons depuis la Terre. L'exploit tient au fait qu'il a fallu anticiper la communication avec ce robot pour lui envoyer des ordres et recevoir ses données. Impossible de braquer des antennes vers la Terre puisqu'on est du mauvais côté. Les Chinois avaient donc anticipé et lancé un satellite relais en mai dernier. Il tourne depuis autour de la Lune pour assurer les transmissions. L'autre difficulté majeure pour l'atterrisseur et le rover, c'est de les rendre résistants aux températures assez extrêmes. Il fait moins 170 degrés la nuit lunaire pendant 14 jours et puis le reste du mois, plus 120 degrés quand le soleil l'éclaire. On ne sait pas si tout cela va marcher, mais d'ores et déjà, pendant la descente, Chang'e 4 a pris une très jolie photo.
Alors, la vidéo de l'alunissage sur France Inter.
Pas la vidéo,
FR.
L'image.
L'image, alors on m'a vendu une vidéo, bon, l'image de l'alunissage. L'autre réalité ce matin, c'est la puissance de la Chine, la nouvelle puissance de la Chine dans l'espace.
En effet, en raison de son isolement, la Chine n'avait pas d'autre choix il y a 15 ans que d'assurer seule ses ambitions spatiales. Elle voulait entrer dans le club très fermé des puissances spatiales. Depuis, elle déroule un programme classique, mais de façon magistrale et avec ses propres moyens. L'an dernier, elle a doublé les Américains en lançant le plus de fusées dans le monde, 30% du total mondial. En fin d'année, avec Chang'e 5, elle veut rapporter des échantillons lunaires, en 2020 se poser sur Mars et en 2022 accueillir ses taïkonautes dans sa toute nouvelle station spatiale.
Sophie Bécherel pour un début d'année dans les étoiles, décidément après l'expédition d'une sonde de la NASA aux confins du système solaire et ses dernières images d'Ultimatulé, corps céleste le plus lointain et le plus ancien jamais photographié, deux sphères collées qui ressemblent à un bonhomme de neige, nous dit la NASA, et pas une cacahuète. Comme on l'a dit le 1er janvier, nuance.
Retour sur Terre, Florence, avec une image très nette, celle-là.
L'image gilet jaune de ce début d'année, l'arrestation d'Éric Drouet, l'une des figures du mouvement, celle qui fascine tant Jean-Luc Mélenchon. C'était hier soir à Paris, parmi une cinquantaine de sympathisants du côté de la place de la Concorde, pas loin de l'Elysée, où il disait vouloir entrer il y a quelques semaines. Plus tôt, Éric Drouet avait appelé à une action pour choquer l'opinion publique. Il n'en aura pas eu le temps. Bonjour Cyril Graziani.
Bonjour.
Le pouvoir aurait-il sifflé la fin de la partie ?
Et clairement, l'exécutif a décidé de repartir en 2019 sur d'autres bases. Le pouvoir durcit le ton, en conformité avec le discours d'Emmanuel Macron lors de ses vœux et sa dénonciation des porte-voix d'une foule haineuse. Aux yeux du chef de l'État, Éric Drouet en fait partie. L'exécutif affirme son autorité. Plus de fermeté, c'est assumé. Oui au dialogue dans le cadre du grand débat, non aux factieux, commente-t-on au sommet de l'État ce matin. Ça suffit maintenant. Et c'est vrai que cette fermeté est affichée depuis plusieurs jours. Christophe Castaner a envoyé un télégramme aux préfets et leur réclame la libération complète et définitive de la centaine de ronds-points encore ou de nouveau occupés. Après, concernant Éric Drouet, le risque, c'est aussi d'en faire une sorte de martyr, de faire redémarrer le mouvement dont on dit qu'il s'est essoufflé, voire de créer un affrontement politique avec l'opposition. Jean-Luc Mélenchon en tête, le leader de la France Insoumise avait exprimé lundi sa fascination pour Drouet. Hier, après son arrestation, il a dénoncé une police politique.
Cyril Graziani, les mots de Jean-Luc Mélenchon. Autre réaction déclaration hier soir, celle de Florian Philippot, patron du parti Les Patriotes, qui dénonce une dérive autoritaire du pouvoir.
Je suis très choqué par cette nouvelle arrestation. J'en ai vu d'ailleurs les images, les trop violentes. On a le sentiment que en France aujourd'hui, sous le régime Macron, il est préférable de se balader illégalement avec deux passeports diplomatiques plutôt que de manifester pour ses droits sociaux et ses droits démocratiques. Et la répression systématique, brutale, les ordres brutaux donnés aux forces de l'ordre, d'ailleurs que certains policiers commencent à dénoncer eux-mêmes, ça commence à bien faire, voilà. Ça commence à bien faire parce qu'il y a un petit parfum qui n'est plus vraiment démocratique, qui n'est plus vraiment républicain, qui commence à se répandre. Et j'ai le sentiment que le régime Macron devient de plus en plus autoritaire.
Voilà, Florian Philippot avec Théo Hetch. Et voilà, encore des critiques contre l'idée, cette fois, d'un référendum à questions multiples évoqué depuis hier par un proche d'Emmanuel Macron sur le vote blanc, la proportionnelle, la diminution du nombre de parlementaires ou le cumul des mandats dans le temps. L'opposition, Laurence Peau, on n'y voit pas, mais pas du tout, la réponse attendue au mouvement des Gilets jaunes.
Manœuvre en tourloupe, tour de passe-passe. Les parlementaires de l'opposition, dans un consensus assez rare, n'ont pas de mots assez forts pour dénoncer, selon eux, l'escroquerie d'un référendum à questions multiples. Pour le Rassemblement national, ce scrutin, qui pourrait avoir lieu le même jour que celui des européennes, est un moyen de sauver la face. Le député Sébastien Chenu y voit aussi une consultation biaisée.
Qu'il le fasse sur l'immigration, qu'il le fasse... Il y a des tas de sujets sur lesquels il peut le faire, et là, on lui dira un chiche.
Le Parti socialiste ne se fait aucune illusion. Les questions ne porteront pas sur le social, parie le sénateur Rachid Temal.
Il n'y a aucune question sur le pouvoir d'achat, sur les revenus, sur l'ISF. Donc c'est un problème.
À droite, la députée LR Laurence Saliet est exactement sur la même ligne.
Il a dit qu'il ne changerait pas de cap. Et en plus, il donne déjà les questions qu'il va mettre dans le référendum. Je pense que les Français vont se demander pourquoi ils vont participer à un débat si le président de la République en expose déjà les conclusions.
Les insoumis qui militent pour un référendum d'initiative citoyenne très large n'y retrouvent à l'évidence pas leur proposition. Manuel Bompard, directeur des campagnes de la France Insoumise.
Je pense que la solution, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale pour permettre aux Français de se prononcer à nouveau.
Un ministre qui avait poussé l'idée auprès de l'Élysée lâche, il faut le tenter absolument, c'est le dernier atout avant la dissolution.
Emmanuel Macron, ce matin, perd sa plume et son conseiller en communication, Sylvain Faure, qui l'accompagnait depuis le début de sa campagne, annonce qu'il va quitter l'Élysée d'ici la fin du mois pour s'orienter vers d'autres projets professionnels. Sylvain Faure qui fait partie du tout premier cercle du président.
Un diplomate qui fait défection avec toute sa famille, comme aux pires heures de l'Union soviétique.
Et celui-là n'est pas russe, mais nord-coréen. L'ambassadeur de Corée du Nord en Italie aurait demandé l'asile à un pays occidental. Lourde perte pour Pyongyang, comme le révèle un journal de Corée du Sud, d'où nous appelle Frédéric Ojardias.
Le diplomate nord-coréen Cho Song-il, 48 ans, a demandé asile au gouvernement italien début décembre, affirme ce matin à Séoul le quotidien Chungang. Le journal ajoute qu'après quelques hésitations, l'Italie a accepté de protéger le transfuge. Les raisons de sa fuite ne sont pas encore connues. Selon la presse sud-coréenne, Cho Song-il avait reçu l'ordre de rentrer à Pyongyang. Craignait-il une punition ? Toujours est-il qu'il a préféré s'enfuir avec sa femme et ses enfants. L'homme avait sans doute un rang très élevé au sein de la hiérarchie nord-coréenne. Il est en effet rare que le régime autorise ses diplomates à être accompagnés par leur famille, une mesure destinée à empêcher les défections. Si sa fuite est confirmée, Cho Song-il sera le plus haut responsable nord-coréen à faire défection depuis Tae Yong-ho, vice-ambassadeur à Londres, passé en Corée du Sud en 2016. Tae Yong-ho vit depuis caché à Séoul, sous la protection permanente des services secrets sud-coréens, de peur des représailles de Pyongyang. Séoul, Frédéric Ojardias, RFI pour France Inter.
Et aux États-Unis, Donald Trump reste inflexible sur son mur et qu'importe le shutdown qui paralyse en partie l'administration fédérale. Le président n'en démord pas, il veut faire voter les 5 milliards de dollars nécessaires à son édification à la frontière mexicaine face à des démocrates qui prennent la Chambre des représentants aujourd'hui et qui mettent leur veto. Cela pourrait durer longtemps, a lancé Donald Trump, manifestement pas inquiet. Et pour Apple, ça n'est pas encore le shutdown, la fermeture, mais ça va très mal pour la firme à la pomme. Grosse catastrophe en bourse hier qui vient couronner un trimestre plombé par la baisse des achats en Chine, Pierre-Yves Dugas.
Apple n'a pas l'habitude de décevoir ses actionnaires. La mise en garde faite après la clôture de Wall Street hier soir ne fait que renforcer le pessimisme des analystes. Depuis 3 mois, Apple a déjà perdu près d'un tiers de sa valeur boursière et en quelques minutes hier soir, 58 milliards de dollars de capitalisation de plus se sont envolés. Tim Cook, le patron de la firme californienne, explique que la baisse de la demande en Chine est la principale responsable du dérapage. Le ralentissement de la conjoncture chinoise qui alarme les marchés depuis des semaines n'explique pas tout. La concurrence féroce du chinois Huawei y est aussi pour quelque chose. Par patriotisme, des Chinois préfèrent peut-être acheter des smartphones Huawei, firme que les États-Unis cherchent à bannir de leur marché.
Pierre-Yves Dugas de Washington, quand la Grande-Bretagne rapatrie des navires pour surveiller la Manche depuis une semaine, une centaine de migrants tentant la traversée depuis la France ont été secourus en mer et ces tentatives désespérées de rallier les côtes anglaises inquiètent au plus haut point les Britanniques et les pêcheurs français de Boulogne-sur-Mer. Deux de leurs bateaux ont été volés, qui s'ajoutent à cinq tentatives, la dernière dans la nuit du 31 décembre. Reportage sur place, signé Thibault Lefebvre.
C'était il y a deux semaines. Dans la nuit, le verrou du petit bateau de plaisance de Logan a été arraché, la batterie dérobée. Les voleurs ont ensuite essayé, sans réussite, de démarrer un autre bateau. Alors depuis, Logan ne laisse plus rien à bord.
J'ai plus de feu, rien du tout. Même l'essence, je ramène au fur et à mesure, parce que si je garde du stock à bord, voilà, ils vont voir ça, ils vont encore être plus tentés. Ils font tout pour passer, de toute façon, puis ils arrêteront pas. Et ça va quelle heure qu'on parte, hein. Ils viennent aux heures qu'il n'y a personne dans les bateaux. Hein. Ça donne envie de revendre.
Les tentatives de vol se produisent entre la tombée de la nuit et l'arrivée des premiers marins pêcheurs vers 2h du matin. Alors les propriétaires des bateaux passent régulièrement pour éviter le pire. Benoît est capitaine du chalutier, la petite crevette.
Je viens vérifier comme je suis de passage s'il n'y a pas un mouvement sur le ponton. Ça peut m'arriver de descendre 3-4 fois dans la journée. Quoi. Putain, c'est quand même l'outil de travail, les gars ils vont perdre la marée. Tous les bateaux, ils ont été forcés, donc bon, ça coûte rien de jeter un coup d'œil. Quoi.
L'État promet de renforcer la sécurité du port sur le modèle de celui de Calais, avec des caméras de surveillance plus efficaces, une société de gardiennage et un meilleur éclairage. Selon la préfecture du Pas-de-Calais, l'essentiel du financement devrait être assuré par les Anglais.
L'épouse de Peter Sherriff, présentée cette nuit à un juge à Paris, la femme du djihadiste français, pourrait elle aussi être mise en examen après son arrestation à Djibouti et 4 jours de garde à vue en France. Un record pour le Louvre, 10 millions de visiteurs l'an dernier en 2018, chiffre inégalé pour un musée international des beaux-arts. Apparemment, les étrangers représentent près des 3/4 des visiteurs. Et aussi, ont le sourire, les professionnels des stations de ski. Ski commence très bien la saison, 85% des lits occupés cette semaine à la montagne. Sauf que sur les pistes, c'est une autre histoire. 2 morts et 15 blessés en quelques jours en Haute-Savoie. La préfecture appelle à la vigilance. Les secouristes n'arrêtent pas sur une neige difficile, une neige comme du béton, Philippe Lefebvre.
Pas de neige fraîche depuis Noël, parfois un peu de pluie et des températures très froides durant la nuit. Résultat, sur les pistes les plus basses, la glace a remplacé la neige. Explication de Pascal Sevose, c'est le directeur du service des pistes de Méribel-Motaret.
Au-dessus de 2200 mètres, la neige est bonne. Et en dessous de 2200 mètres, par rapport à la pluie qu'on a eue et les températures négatives, il y a eu un durcissement du manteau neigeux. Ce qui fait que le matin, à 9h jusqu'à, on va dire, 14h, avec l'énorme passage des skieurs, la neige est bonne. Et c'est vrai qu'après, sur les bas de station, on a de la neige qui est dure.
Et sur cette neige glacée, les chutes sont plus nombreuses. On compte jusqu'à 20% d'interventions de secouristes en plus, même si dans la plupart des cas, il ne s'agit que de blessures légères. Mais les appels à la prudence se multiplient. Éric Gravier, le directeur technique de l'école du ski français.
Quand les conditions sont un peu plus difficiles, bah, il convient de réduire peut-être la difficulté des pistes, c'est-à-dire si on a l'habitude de skier sur une piste rouge, bah, d'abord d'aller plutôt sur des bleus.
La saison dernière, 131 409 personnes se sont blessées sur les pistes françaises. 80% étaient des skieurs et 20% des snowboarders.
Cap ou pas cap, voilà un défi que nous propose Isabelle Adjani, Yann Arthus Bertrand, Juliette Binoche et 500 personnalités dans le journal Le Monde. Cap ou pas cap de se passer de viande et de poisson tous les lundis de 2019. Campagne lancée pour encourager les changements de comportement pour l'environnement, pour la santé de l'homme et pour l'éthique animale. Et voilà un autre défi, Ali, cap ou pas cap, d'arrêter l'alcool pendant tout un mois, le mois de janvier. C'est un défi qui vient d'Angleterre, le Dry January, pour se purger après les excès de décembre. Les Français sont-ils séduits? Aurélia Valarier a posé la question.
Il y a deux types de personnes. Celles qui se disent prêtes à relever le défi du mois sans alcool.
Oh, c'est une bonne résolution,
qu'on peut peut-être tenir pour un mois.
Oui, ça peut être bien pour commencer l'année. Moi, je bois pas beaucoup, alors bon, ça serait pas très difficile de le faire, mais je pense que ça peut être bon pour la santé, ouais.
Et il y a celles qui ne bousculeront pas leurs habitudes.
Ah, ça va pas être possible. Je vois pas pourquoi janvier serait différent des autres mois. Il y a pas de raison de se priver.
Bah non, nous, on fait l'apéro, on aime bien.
Pour beaucoup, le mois de janvier a commencé lundi soir à minuit une avec une coupe à la main.
Il faut faire un mois de janvier sans alcool. Seulement, ça a mal commencé parce qu'on a bu le champagne pour le 1er janvier. Je le regrette.
L'addictologue Jean-Claude Ex-Braillard recommande une pause sur l'alcool, toujours bénéfique aussi courte soit-elle.
Le fait de diminuer sa consommation d'alcool ou de l'arrêter, même pour un temps court, il y a toujours un bénéfice. Les personnes peuvent retrouver donc une alimentation normale, restaurer leur rythme de vie biologique, retrouver un sommeil de meilleure qualité. Il y a toujours à y gagner.
Et sachez que si vous arrêtez de boire en janvier, les effets positifs seront visibles jusqu'en août. Alors maintenant, à vous de voir si vous êtes prêt à relever le défi.
Ben voilà, un mois sans tabac, un mois sans alcool.
Cap.
Hein, cap.
Cap, évidemment, Florence. Allez.